Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Edeni qui, de manière mensuelle, eh bien, interroge des grands sujets de société en lien avec l'écologie, avec la santé et avec l'éthique, fidèle à notre approche holistique. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore en découvrant ce podcast, Edeni est un collectif, organisme de formation professionnelle pour la transition écologique et sociale. Et donc, on accompagne des individus, des organisations à se poser des questions, à, on va dire, muscler leur esprit critique et à engager, eh bien, une transition, que ce soit pour leur activité professionnelle, que ce soit pour leur vie personnelle, individuelle, familiale, etc. Et à ce titre, eh bien, on interroge chaque mois avec des intervenantes et des intervenants qui partagent nos valeurs, qui partagent cette interrogation d'esprit critique, de cohérence, de militantisme aussi. Eh bien, nous interrogeons avec eux des grandes questions autour parfois du numérique, parfois du social, parfois de l'éthique, des grandes luttes, des ZAD, des transformations professionnelles, etc., etc. Et ce soir, nous allons interroger, eh bien, le triptyque parentalité, féminisme et écologie, pour savoir si c'est un paradoxe, s'ils sont irréconciliables ou si au contraire, on peut y trouver une forme de complémentarité. Parce qu'il est vrai que la question démographique, bien que souvent galvaudée et utilisée à mauvais escient, on le sait, elle reste quand même importante dans notre monde aux limites finies. Sa courbe exponentielle qui explose depuis le milieu du XXe siècle est une composante importante de la destruction de la planète et fait présager des combats d'accès aux ressources effrayants. Alors, si en plus on rajoute les perspectives écologiques qui nous attendent rationnellement et les constats dramatiques actuels, pénurie d'eau douce, géopolitique qui réarme les pays, extrême droite et autoritarisme qui prennent de la force partout, dôme mortel de chaleur, épidémie, cancer, pollution, inertie, voire recul politique, inflation, pénurie de blé, d'huile, de lait infantile, etc., etc., bon, bah, tout ça ne donne pas vraiment envie de donner la vie. Parce que quelle vie, pour quels impacts d'épuisement des ressources supplémentaires et comment envisager faire venir au monde des enfants dans ces conditions et perspectives? Et puis en termes féministes, comment aborder le paradoxe entre maternité et libération de son injonction? Et si on choisit finalement un projet de parentalité, et si on choisit finalement la vie et cet élan de vie, eh bien dans quel terme? Est-ce que c'est l'adoption? Est-ce que c'est la conception? Est-ce que c'est la parentalité partagée au sein d'une tribu? Et puis après, avec quel garde-fou écologique et féministe? Alors, parentalité, féminisme et écologie, est-ce un triptyque impossible? Et on va essayer d'aborder toutes ces questions avec nos deux invités qui sont mère et autrice sur la question et que j'ai beaucoup de plaisir et de joie à recevoir. On a d'abord Amandine Lafont qui a été mentor Edeni, qui est toujours mentor Edeni d'ailleurs, qui anime une de nos formations, qui s'appelle la formation écologie santé éthique, ESE, et qui a aussi animé une classe sur l'éco-parentalité ou la parentalité éco-responsable. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Hélène, merci beaucoup de cette invitation. Ravie d'échanger avec toi et Audrey sur le sujet ce soir.
Merci. Quelques mots pour te présenter par rapport à ce que j'ai dit, Amandine, pour ajouter.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je me consacre à l'accélération des savoirs qui sont nécessaires à la redirection écologique de nos sociétés. Donc, j'accompagne des experts qui souhaitent partager des formations à impact positif. Et puis, je suis moi-même animatrice, facilitatrice, formatrice dans des ateliers divers et variés autour de la transition écologique, et notamment pour Edeni. Et effectivement, j'ai eu le privilège de pouvoir accompagner pendant une bonne année, quasiment pendant différents confinements, on peut dire, des jeunes parents qui souhaitaient m'embarquer dans une transition écologique familiale. Et donc, on a notamment l'opportunité d'échanger autour des sujets que tu as présentés dans l'introduction. Donc, je serais ravie de partager un petit peu un retour d'expérience autour de ça ce soir.
Et de quoi est composée ta famille actuellement?
Alors, moi, je suis l'heureuse maman de deux petites filles qui ont 7 ans et 4 ans et demi. Et voilà, j'essaie d'élever comme des petites guerrières de l'écologie, mais on y reviendra.
Ça marche. Super. Merci beaucoup, Amandine. Et nous recevons aussi Audrey. Audrey, qui du coup est comédienne, autrice, que j'ai découvert via ses spectacles, que je vous invite à voir si vous ne les avez pas encore vus. Alors, je ne sais pas si tu les fais encore, Audrey, tu nous diras. Il y a Comment épouser un millionnaire, qui est tout un. Évidemment, tout un programme. Aussi Billion Dollar Baby, qui aborde avec vraiment un ton très drôle et très acerbe les questions d'éducation, où Audrey, dans un seul en scène, eh bien, met en scène sa grossesse et la lettre qu'elle écrirait à son enfant. Et d'ailleurs, ce texte est tellement percutant, tellement fort, tellement beau qu'il a été édité en livre aux éditions Libres, qu'on présente beaucoup aussi chez Edeni, ces superbes éditions autour de l'écologie, de la résistance, des grandes réflexions de société, des réflexions féministes aussi. Donc Audrey, tu as publié Billion Dollar Baby, ce texte accompagné d'autres textes qui ont jalonné ta prise de conscience pendant la grossesse et notamment autour de l'éducation, on en reparlera. Et on est ravis de t'accueillir ici sur ce podcast, puisque je sais que tu as déjà participé à d'autres podcasts, notamment avec ton compagnon Thomas VDB sur Bleach, j'avais entendu. Et c'était chouette d'entendre aussi. Ça m'a fait un peu flipper quand même, je me suis dit, parce que tu as accouché à la maison très rapidement. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais quelque part, si, c'est exactement le sujet, puisque c'est combattre nos peurs, sortir un peu de ces exemplarités, de ces projections, on va dire, de la parentalité idéale ou pas, et de voir ce qu'on en fait dans la vraie vie quand on a ces consciences féministes et écologiques. Bonsoir Audrey, et je te laisse te présenter avec tes propres mots pour compléter ce portrait.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation élogieuse. Voilà, je suis comédienne et donc j'ai écrit 7 spectacles, dont effectivement 4 sur l'écologie, un sur les milliardaires, un sur Fukushima, un qui s'appelle Écologie, maintenant il faut se battre, et le dernier Billion Dollar Baby. Voilà. Donc oui, effectivement, j'ai passé la deuxième grossesse extrêmement... En fait, j'avais vraiment besoin d'écrire ce texte avant la naissance de ma fille. Donc j'ai vraiment passé 9 mois à me plonger dans tout ce qu'il y a de pire comme désastre. Et puis finalement, à en tirer un texte assez drôle, je crois. Et ça m'a fait du bien de mettre en une heure la totalité de la situation. Ça m'a fait du bien d'avoir ce résumé, en fait.
Ouais. Et alors justement, par rapport à ce sujet, qu'on rentre directement dans le vif, vous, est-ce que c'est quelque chose, donc Audrey, tu viens d'y répondre, en partie en tout cas, mais est-ce que c'est quelque chose qui était présent, cette interrogation sur est-ce que vraiment il faudrait faire des enfants ou pas? Est-ce que c'était déjà une terreur? Est-ce que c'était déjà une interrogation avant même le, et je mets des guillemets, projet d'enfantement? J'aime pas trop ce terme de projet parce que ça fait comme si c'était une consommation capitaliste comme une autre, voilà, qu'on planifie sur un calendrier, etc. Mais néanmoins, quand vous vous êtes dit « Ok, je me sens prête à prendre la responsabilité d'enfanter sur cette planète et dans ce monde », est-ce que vous aviez déjà ces inquiétudes? Amandine, peut-être d'abord.
Alors moi, mauvaise élève, non, pas du tout. J'avais un petit, moi, ma prise de conscience vraiment autour des enjeux environnementaux, sociétaux, etc. Coïncide plus ou moins, on va dire, avec la maternité. Je pense que j'avais ces choses-là dans un coin de ma tête, mais je pense que je faisais l'autruche et je voulais pas me pencher et Et en fait, la première maternité, ça a été un vrai bouleversement à tous les sens du terme. Et quand j'ai été enceinte, moi, j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là, en fait, et à commencer à tirer le fil. Alors, ça a commencé avec l'alimentation, en me posant des questions sur ce que je donnais à manger à mon enfant, est-ce que j'étais pas en train de l'empoisonner, etc. Et ma prise de conscience écologique s'est faite à ce moment-là. J'ai commencé à creuser les sujets. Et la, la deuxième grossesse qui est intervenue en 2 ans et demi d'écart, voilà, 2 ans et demi plus tard. Là, ça finit d'enfoncer le clou. Et donc, moi, ça s'est fait de manière concomitante. Donc, je pense que mes filles ont clairement contribué à ma prise de conscience écologique. Ça a été un vrai bouleversement de ce point de vue-là. Hein. Je crois que c'est Alice Desbiol que tu as reçue aussi dans un podcast, il me semble, qui parle de matrescence, sa contraction de maternité, d'adolescence, et ça désigne tout ce processus de bouleversement physique, hormonal, physiologique, et qui fait que, en fait, les jeunes parents, et notamment les jeunes mères, sont beaucoup plus, ont un terrain beaucoup plus propice à générer de l'éco-anxiété. Et je pense que moi, vraiment, c'est ça qui a joué à ce moment-là.
Oui, donc toi, tu n'as pas eu de doute, enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de raisonnement écologique à te dire est-ce que je vais enfanter ou pas. C'est plutôt l'enfantement qui a apporté tes raisonnements écologiques.
Exactement. En revanche, je me suis quand même posé cette question, mais bon, pour y revenir après, je ne veux pas non plus monopoliser la parole. Mais moi, dans mon idéal, je voulais avoir 3 enfants. Et clairement, après la deuxième, j'ai eu cette réflexion. J'ai fait le deuil vraiment parce que c'est quelque chose qui, voilà, dans mon imaginaire me tenait à cœur. J'ai fait le deuil de ce 3e enfant pour des raisons écologiques. Donc c'est pas tout à fait la même chose, je pense que voilà, des personnes, j'en côtoie plein, hein, qui décident de ne pas avoir d'enfants pour ces raisons-là. Mais effectivement cette question-là s'est posée plus au niveau, enfin après avoir eu mes 2 filles.
C'est intéressant. Merci Amandine. Audrey, quant à toi, du coup, même si tu le racontes un petit peu dans ton spectacle, quels ont été ces passages, on va dire, lors de ta première grossesse ?
Disons que moi, j'avais un peu fait ce cheminement avant d'être enceinte. Enfin, c'était déjà mes sujets. L'éco-anxiété, je l'avais déjà vécue avant, et puis je l'avais déjà surmontée, et puis revécue et resurmontée. Donc, je crois que j'avais déjà fait tout ce travail-là avant. Après, le bouleversement, il est quand même immense de toute façon. Je dirais que la colère était plus grande après avoir eu des enfants. Et aussi quand j'ai commencé, donc il y a 6 ans, la prise de conscience écologique, elle était quand même très très loin. Enfin, je me souviens quand j'ai fait le spectacle en 2018 qui s'appelle Écologie, maintenant il faut se battre, avec des textes de Deep Green Resistance, de Hervé Kempf et tout ça, ce mélange de textes. Je me souviens que pour le public, j'étais un ovni qui disait n'importe quoi, hyper radical et tout. Et puis après les Gilets jaunes, ce discours est devenu mainstream. Parce que les Gilets jaunes ont popularisé l'idée que le diesel, enfin le kérosène des avions n'était pas taxé. Plein de choses que je disais dans mon spectacle et que vraiment les Gilets jaunes ont mis dans le débat public et ils ont révélé un peu toute l'escroquerie écologique. Enfin, toute l'escroquerie de l'écologie gouvernementale, disons, qui est toujours de taxer les pauvres, etc. Et du coup, ce qui était marrant, c'est qu'en vraiment en 2 ans, c'est devenu mainstream. Et là, je me réjouis assez de la situation. C'est-à-dire que maintenant, je me sens moins seule, en fait. Je me sens moins seule et je suis heureuse de voir ce qui se passe et ce qui arrive. Je suis très heureuse de voir la prise de conscience globale. Et parce que je me souviens, quand j'ai commencé à faire des spectacles sur l'écologie, d'abord, j'avais fait des spectacles sur l'économie. On m'avait dit « t'es folle, ça n'intéressera personne » et tout ça. Alors après, quand j'ai commencé à faire des spectacles sur l'écologie, c'était vraiment genre mais la niche de la niche, quoi. Et du coup, c'est marrant parce que je ne me suis pas posé la question d'avoir ou pas des enfants. Je me souviens de cette infographie immonde de l'AFP qui disait « Est-ce que c'est pire de faire un Paris-New York ou d'avoir un 2e enfant ?» et tout. Je me suis dit, à partir du moment où on compare des vols Paris-New York et des enfants, c'est qu'on est vraiment une humanité vraiment mal barrée. Et je ne me suis pas du tout posé cette question parce que pour moi, en fait, il ne faut pas avoir de SUV, mais les enfants, c'est biodégradable, ça ne pollue pas. Mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui viennent voir le spectacle et qui me disent qu'ils ne veulent pas d'enfants par conviction écologique. Et la dernière fois, j'étais dans un spectacle, j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne veulent pas d'enfants par conviction écologique? Et il y a à peu près 3-4 couples qui ont levé la main. Et après, j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas de smartphone par conviction écologique? Et personne n'a levé la main. Et donc, je me suis dit, voilà, on a quand même beaucoup de choses à arrêter avant d'arrêter de faire des enfants.
Oui, il y a cette phrase aussi que m'a passée un autre collectif avec qui on a déjà fait des podcasts qui s'appelle Floraison et qui est proche aussi de Deep Grid Résistance, des textes que tu citais avant et qui disait que notamment Théodore Kavinsky qui a beaucoup écrit sur l'arnaque industrielle, sur l'industrialisme, etc., part d'une analyse de toutes les grandes révolutions qui ont bien fonctionné, etc., et qui montre que c'est vraiment important de continuer d'avoir cette vie qui s'exerce et de faire des enfants qui auront un nouveau paradigme et qui sont capables justement de vivre sans smartphone, même si nous, on n'en est pas capable. Alors, je suis partagée sur cette idée parce que souvent, il y a des personnes qui me disent « Mais Denis, c'est génial, mais tout ça, il faudrait que vous le fassiez auprès des enfants parce que c'est eux qui vont changer les choses. » Et en fait, non. Là, il y a urgence. Et nous, on n'est quand même pas foutus. On est biodégradable, certes, mais on a encore nos générations et même les générations supérieures qui sont au pouvoir et qui sont nos dominants, ont des choses à faire, ont un pouvoir de destruction à arrêter encore. Et donc, c'est à tout niveau, partout, qu'il y a des choses. Mais est-ce que toi, même si la réflexion ne se situe pas sur le fait de donner, de porter ou non la vie, mais est-ce que tu n'as pas eu peur, ou est-ce que, justement, tu parlais de colère, elle s'exerce dans quoi, cette colère aujourd'hui du monde dans lequel grandissent tes enfants?
Bah, je suis en colère qu'ils aient un air pollué, qu'ils boivent une eau dont je ne suis pas sûre qu'elle ne contient pas des pesticides qui pourraient les rendre infertiles. Je suis pas contente, quoi. Je ne suis pas contente qu'il n'ait pas un milieu viable, en fait. Et voilà, je suis désespérée par l'endométriose, la stérilité des couples, par les cancers pédiatriques qui explosent, tout ça, ça me met très en colère. Que le PDG de Nestlé, qui a tué 2 enfants par pizza Buitoni, ne soit pas en prison, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et tout ça me met très en colère. Mais voilà, je me bats dans la petite ville où j'habite pour que les voitures aient moins de place. Et on me dit, oh, mais si on réduit la voirie pour les voitures, ça peut être dangereux pour les voitures. Je me dis, non, mais... On en a marre, quoi. On en a marre de vous penser tout le temps aux voitures, à l'industrie, à tout ça. Et ça, ouais, ça rend vraiment très en colère, ouais.
Et toi, Amandine, est-ce que tu as des colères, des peurs actuellement pour tes filles déjà présentes?
Oui, bah, je pense que c'est un petit peu comme vient de partager Audrey, hein. C'est un mélange de colère et de peur, hein, par rapport à tout ça, hein, de se dire que... Oui, ne peuvent pas bénéficier de la qualité d'air, des écosystèmes qu'on aimerait pour elles. Et puis ça fait très peur, effectivement, quand on voit toutes ces maladies qui explosent, etc. Et puis il y a une énorme injustice, hein, c'est ce que tu disais, mais je pense qu'il y a une injustice aussi générationnelle, hein, à faire porter ce poids aux enfants, de dire que c'est eux qui vont nous sauver. Alors déjà, si on attend que ces enfants-là soient au pouvoir et qu'ils changent les choses, ben on est mal barré, on sera déjà bien mal barré avant. Et puis je trouve ça complètement injuste. Et moi, j'interviens assez régulièrement pour des ateliers, notamment fresque du climat et ce genre d'ateliers dans les écoles. Et moi, les messages que je fais passer aux enfants, c'est que c'est pas... Bien entendu, eux, ils peuvent agir, c'est des petits colibris, etc. Ils peuvent faire des choses à leur échelle, mais qu'il faut qu'ils interpellent les adultes. C'est aux adultes aussi de leur montrer, et j'essaie de leur montrer, tout ne repose pas sur vous, parce qu'autrement, on se retrouve là aujourd'hui. Je suis assez déroutée quand je vois les tranches d'âge un peu plus supérieures, plutôt les adolescents, etc., et qui sont complètement désespérés d'hériter d'un monde auquel ils n'ont pas contribué, un monde désastreux auquel ils n'ont pas contribué, et puis on leur demande, maintenant, ça, débrouillez-vous, c'est à vous de gérer ça. Et ça, je trouve ça très injuste, et ça me met énormément en colère, et ça me fait aussi peur, effectivement, de me dire que mes filles vont se retrouver face à ça. Et donc, voilà, moi, ce que j'essaie de faire quand j'échange avec eux, c'est de leur dire, mais interpeller les adultes d'aujourd'hui, c'est aussi à eux de gérer cette situation et c'est très injuste pour vous, quoi. Donc, voilà, un petit peu ce qui m'a dit.
Tu me disais aussi, Amandine, avant, quand on échangeait sur ces sujets, que tu avais aussi une responsabilité et une peur en tant que mère de transmettre trop d'anxiété à tes filles. Et que du coup, tu essayais aussi d'avoir un discours qui soit honnête, mais qui ne soit pas anxiogène pour elles. Est-ce que tu as des astuces ou des choses à transmettre au public ou tes combats qui sont perdus d'avance et ceux, au contraire, que tu arrives à faire avancer avec elles?
Ouais, je pense que là-dessus, on marche un petit peu sur la corde raide, hein, toujours. Hein. C'est jamais complètement évident. Quand on animait la case virtuelle, une des grosses attentes des participants et des participantes tournait autour de l'éco-anxiété, effectivement, hein, cette peur de générer de l'anxiété sur les enfants. Alors, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui rien que le fait d'en parler, je pense que ça aide déjà, parce qu'aujourd'hui, il y a un énorme tabou dans beaucoup, je pense, dans beaucoup de familles, finalement, on n'en parle pas. Je suis intervenue récemment dans la classe de ma fille aînée qui est en CP, pour les sensibiliser à ça, et je ne voulais pas prononcer certains mots comme réchauffement climatique, changement climatique, et il y a des enfants qui me les ont dit spontanément. Et là, je dis, bon, ok, tu as entendu ça où, ce mot voilà. Et en fait, je découvre que certains enfants entendent ça à la télé, en entendent parler, donc c'est anxiogène, parce qu'en plus, la façon dont c'est traité dans les médias, c'est pas toujours très habile. Et au final, ils ne peuvent pas échanger avec leurs parents derrière, parce que leurs parents ne sont pas sensibilisés, ou sont dans le déni, ou balayent ça d'un revers de main. Et ça contribue à créer l'éco-anxiété. Donc je pense que déjà quand même en parler, c'est déjà quand même quelque chose de plutôt qui va plutôt dans le bon sens. Après, il y a choisir les bons mots, un vocabulaire approprié. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par voilà, il y a plein de livres adaptés. Et puis moi, je crois que notamment sur les tout petits, il faut déjà, avant de les alerter sur l'état du monde, leur transmettre l'amour de la nature, l'amour du vivant, etc. Parce que c'est difficile d'avoir envie de sauver quelque chose qu'on n'aime pas profondément. Donc moi, j'agis plutôt là-dessus par rapport à mes enfants qui sont jeunes. Et puis, je pense aussi leur montrer, être lucide face à l'état du monde, mais leur montrer que nous, on essaye de faire notre part, etc. Et qu'on n'est pas juste à contempler le désastre qui se passe. C'est déjà un énorme vecteur d'espoir pour eux. Mais après, c'est pas toujours évident parce que d'un côté, ils sont branchés à la matrice, j'ai envie de dire. Et parfois, dans nos choix de vie, on est à contresens de la société. Et ça c'est pas toujours évident, je pense. C'est peut-être plus sur ce côté-là, en fait, des fois que je suis inquiète par rapport à mes filles, c'est de me dire... Ne pas qu'elle n'ait pas le sentiment d'être marginalisée non plus par rapport à tout ce qui, à la majorité des gens qu'elle côtoie. Et c'est ça des fois où je me pose la question de me dire est-ce que ça peut pas les angoisser ou au contraire faire qu'elles rejettent en bloc les combats de leur père et de moi. Voilà, ça c'est encore des questions que je me pose de temps en temps.
Et toi, Audrey, comment tu fais pour gérer ces questions? Peut-être que tes enfants, je t'ai pas demandé de préciser leur âge, mais ils sont peut-être encore un peu jeunes pour ces questions-là, encore que.
Moi, je suis hyper contre, en fait, tout ce qui est à l'adresse des enfants. On a 3 ans, en fait, pour changer les choses. Moi, je veux que dans 5, ce soit une question qui soit réglée. Et effectivement, quand j'interviens dans certains... Je trouve que les adultes sont extrêmement... c'est bon, ils vont gérer le dos, quoi. Et ça, moi, souvent, parfois, quand il y a des enfants qui viennent voir le spectacle ou des adolescents, parfois, j'ai eu des adolescents, notamment, je pense à une petite là, qui n'était pas du tout dans ces sujets-là et qui, à la fin du spectacle, était en larmes. Et je lui ai dit, mais en fait, ne t'inquiète pas, tout va bien, on gère. Toi, tu es adolescente, tu fais ce que tu veux, mais n'y pense pas, quoi. Et vraiment, je lui ai dit, tout ça est une fiction, ça n'existe pas. Enfin, je me sens très, très mal par rapport aux enfants. Je veux pas du tout... Par exemple, souvent, je vois le Seuil et Gallimard et tout ça, ils font des petits livres pour sensibiliser les enfants à l'écologie qui sont imprimés en Chine. Et ça me donne envie de vomir, quoi. Je me dis, mais en fait, n'imprimez pas des bouquins pour faire chier les gamins, quoi. Et voilà, quand je pense à Petit Ours Brun, Bayard Presse, Maison Catholique, pareil, imprimé en Chine. Enfin, voilà, je trouve ça
Hypocrite.
très hypocrite. Très hypocrite, même le tri des déchets, les petits gestes, tout ça. Mais mes enfants, ma fille, elle a fêté ses 2 ans sur une ZAD contre la Farge. Mais voilà, j'ai pas de discours vis-à-vis de ça. J'ai probablement tort, mais je veux pas parler de ça avec eux, en fait.
Je comprends.
Je me dis, c'est la guerre. C'est la guerre et c'est à nous de l'amener. Et j'ai vraiment un sentiment d'urgence qui est tel que je pense souvent aussi aux grands moments de guerre, à la Seconde Guerre mondiale, à ce qui se passe en Ukraine actuellement et tout ça. Et je me dis, bah voilà, on est dans une situation dramatique et il faut épargner les enfants tant qu'on peut.
Non, mais ça me fait penser au film très, enfin, au magnifique film La vie est belle
C'est
avec
belle,
Roberto Benigni. Et c'est vrai que quand on part sur cette analogie, quand on essaie de réagir, qui est d'ailleurs assez, enfin, voilà, qui peut se faire en tout cas sur la destruction de la nature, du vivant, de la catastrophe dans laquelle on est et sur le manque d'éthique. Là encore aujourd'hui, on est en plein dans l'actualité avec tous ces morts qu'il y a eu au Maroc, tout simplement de personnes qui essayaient juste de fuir des guerres, de fuir des famines, etc. et qu'on tue sans autre forme de procès. C'est vrai que bah, dans La vie est belle, on voit ce père. Qui magnifiquement essaie de parler de tout sauf de la situation terrible dans laquelle il est, et justement, comme ce que tu viens de dire, Audrey, de parler de fiction, de parler de jeu, d'essayer de transmettre autre chose, de transmettre de l'espoir. Et je pense que c'est aussi une responsabilité d'adulte qu'on a. Cette responsabilité, moi qui actuellement suis enceinte de 8 mois, je l'ai très très fortement parce que il y a cette question de l'éducation, de me dire, et dans ton spectacle, Audrey, tu en parles bien en parlant aussi de l'éducation des tribus. Où on apprend à vivre et pas à consommer. Dans Mon Ishmaël, qui est aussi aux éditions Libres, que je vous invite, auditorice, à écouter, on entend aussi cette sagesse antique de ce que peut être l'éducation collective dans une tribu et non pas sur une institution d'État comme l'éducation nationale qui va chercher à formater et à créer des futurs travailleurs et consommateurs. Et c'est vrai que moi, je me pose beaucoup de questions sur cette éducation où je me dis quelque part, j'ai pas envie de les envoyer dans ces lieux où il y a la compétition dès le plus jeune âge, où il y a des guerres pour savoir quelle carte Pokémon tu as ou quelle Nike au pied, et que sinon tu es un bolos, et que sinon tu as du harcèlement, etc. Et puis des questions de discrimination sexuelle, d'interrogation, de renforcement des stéréotypes du genre, etc. Et de l'autre côté, tout le monde ne peut pas faire l'éducation à la maison. Et du coup, bah, il y a une question financière, il y a une question économique, il y a une question organisationnelle, il y a une question aussi éthique. Comment vous réagissez? Parce que je sais que c'est aussi des questionnements qui vous parcourent, Audrey et Amandine. Comment vous réagissez par rapport à cette éducation donnée aux enfants? Parce que tout ne se fait pas dans le cercle familial. Et déjà, dans le cercle familial, on n'a pas toutes les réponses. Donc, comment vous arrivez à gérer, ou quels ont été vos arbitrages jusqu'à présent? Amandine, peut-être pour commencer.
Allez. Oui, enfin, moi, c'est une question, très honnêtement, je me la pose encore aujourd'hui. Et je pense que je me laisse. Enfin, on en a parlé récemment avec mon conjoint, mais on se laisse les opportunités de faire des changements radicaux d'un moment à l'autre. Moi, aujourd'hui, mes filles sont scolarisées dans le système scolaire classique, école publique, voilà. Ça me tenait à cœur parce que jusqu'à très récemment, je vivais à Saint-Denis dans le 93. Et C'était important pour moi qu'elles côtoient d'autres enfants et pas des clones de leurs parents, bobo écolo ou je sais pas, enfin voilà. Et qu'elles se rendent compte aussi, enfin voilà, de la diversité des familles. Mais à côté de ça, grosse confrontation par rapport aux valeurs. Voilà, assez souvent face à des gens qui voilà, n'ont pas, même pas la conscience des enjeux environnementaux, etc. Donc, je me suis pas mal questionnée. Et à côté de ça, j'ai été agréablement surprise aussi par un certain nombre d'enseignants. Il y a beaucoup aujourd'hui quand même de professeurs qui se posent ces questions-là et qui essayent de les infuser dans l'enseignement qui transmettent. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance que ce soit voilà, à Saint-Denis ou encore là, aujourd'hui, où je suis en Charente maintenant. Et pareil, je suis encore tombée sur des enseignants qui se posent ces questions-là de manière sincère et qui essayent de transmettre ça aux enfants. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de donner sa chance un petit peu à ce système tout en ayant bien ces garde-fous voilà, que tu décrivais en tête. Et voilà, en me servant de mes filles comme boussole et de voir effectivement s'il y a un moment, j'ai plus l'impression qu'on est en train de fabriquer des bons agents du système, etc. Je me laisse tout à fait l'opportunité de les retirer et d'aller alors, vers des modèles d'éducation alternatifs. Je sais qu'en France, il y a peu de, je trouve aujourd'hui il y a peu d'offres, et donc du coup assez souvent on retourne un peu dans un entre-soi qui moi me dérange et que j'ai envie d'éviter. Peut-être que ce sera l'école à la maison, c'est quelque chose qui me questionne. Et aujourd'hui, en tout cas, que ce soit leur père ou moi, on est tout à fait en mesure de se replier sur cette solution parce qu'on s'est organisé aussi de manière professionnelle, on a fait évoluer nos activités aussi pour que ce soit une option si on se dit qu'à un moment ce sera la meilleure pour nos enfants. Donc voilà, mais on a de la chance de pouvoir l'envisager. Et effectivement, comme tu le soulignais, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, je défends plus ce choix qu'on a fait d'aller vers l'éducation classique pour qu'elle se confronte aux autres enfants, que les autres enfants se confrontent aussi à nos filles et à leurs valeurs et au fait que, par exemple, bah oui, leurs parents n'ont pas de vélo, n'ont pas de voiture et les amènent tous les jours en vélo cargo et c'est trop bizarre. On est les seuls de la petite ville où on est à faire ça. Et je pense que c'est des manières d'interpeller aussi les gens. Donc voilà, le choix que j'ai fait aujourd'hui, en sachant qu'il va probablement ou pas, je ne sais pas, évoluer dans le futur.
Merci Amandine. Audrey ?
J'ai fait la demande cette année pour l'IEF. Je suis passée un peu par plein de stades au niveau de l'éducation. Un grand refus au départ, puis en fait je suis pas du tout,
pour ceux qui savent pas, c'est l'instruction en famille.
Ouais, j'ai fait la demande cette année parce que maintenant il faut des dérogations et tout, donc j'ai fait le dossier, etc., que j'ai justifié par l'itinérance, puisqu'on est beaucoup en tournée, donc on bouge beaucoup et on les emmène beaucoup de toute façon. Je suis un peu mitigée aussi, comme Amandine, à ce sujet, c'est-à-dire à la fois partagée entre l'envie qu'il soit avec ses contemporains, avec des enfants de son âge et tout ça, et puis en même temps une grande détestation de l'éducation nationale, qui ont imposé les masques, enfin, puis qui enfin, la maltraitance que j'ai vue vraiment concrètement. La maltraitance institutionnelle aussi vis-à-vis des profs et des maîtresses et tout ça. Enfin, c'est l'enfer, en fait. C'est l'enfer, c'est moche, c'est hyper... Non, mais c'est horrible, hein. C'est horrible, donc c'est vrai que voilà, je suis partagée vraiment entre le fait que... J'ai écouté une psy que j'ai bien aimée, là, qui s'appelle Caroline Goldman, et qui parle des limites. Et c'est vrai que je pense que moi, je ne donne pas beaucoup de limites. Et du coup, je pense que mes enfants, ils ont besoin aussi de connaître le cadre, enfin un cadre en tout cas. Donc voilà, je suis un peu partagée entre le fait que je déteste le système scolaire français et en même temps qu'il ne faut pas que je sois complètement dans la fusion et dans l'open bar permanent. Parce que les enfants ont besoin de limites. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à appliquer moi-même, en fait.
Oui, je comprends. Non seulement la question du cadre, effectivement, la question que vous avez évoquée, la socialisation, la non-marginalisation, il y a aussi forcément des questions financières. Alors, même s'il y a beaucoup de choses, de toute façon, dans l'écologie en général, souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu une vision qui peut être réelle de bobo, de ça coûte cher, d'être écolo, etc. Mais c'est parce que c'est l'écologie justement libérale, c'est l'écologie gouvernementale, c'est l'écologie de la démonstration des panneaux solaires, etc. Et non pas celle de la sobriété qui s'adapte et qui fait avec très peu et qui utilise le collectif. Néanmoins, c'est vrai que c'est pas simple de s'organiser pour avoir cette sobriété et cette simplicité dans l'éducation, parce qu'actuellement, les systèmes qui organisent l'éducation, alors sauf l'instruction en famille, et encore que du coup, il faut avoir les moyens de pouvoir la mettre en place, et ce n'est pas simple pour tout le monde. Et sinon, toutes les autres structures, que ce soit des écoles Montessori, des forest schools, etc., c'est des structures qui coûtent extrêmement cher, même si parfois il y a des bourses. Et moi, ça m'a amené à me poser la question de l'habitat collectif pour pouvoir avoir une sorte d'éducation en tribu, d'avoir d'autres personnes qui puissent s'épauler et qu'on puisse partager une éducation d'une sorte de tribu d'enfants. Donc là, le week-end prochain, on va visiter un habitat collectif comme ça, où il y a plein de familles avec des enfants. Mais ça reste quelque chose de très marginal. C'est pas sûr du tout que ça fonctionne. Tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit non plus. Et quant à l'éducation nationale, effectivement, il y a non seulement cette question de formatage et de valeurs opposées aux nôtres, que ce soit sur le féminisme, sur l'écologie ou sur les valeurs de vie, de communication tout simplement. Mais en plus, il y a cette question de la violence qui se rajoute. Il y a de plus en plus de violence dans l'éducation nationale, de cas de harcèlement, de suicide, de mal-être des jeunes. Et les réseaux sociaux n'aident pas là-dessus. Et même si nous, dans notre cadre familial, on fait notre potager, on est en alimentation vivante et végétale, sans télévision, avec le moins de réseaux sociaux possible, etc., on ne pourra pas empêcher nos enfants d'être confrontés à ça directement et éventuellement de se sentir mal, comme tu me disais, Amandine, à un moment donné, que tes filles voulaient absolument le petit truc en plastique fabriqué par des enfants chinois. Comment ça s'appelle ?
Le pop-it.
Voilà, le pop-it. Et qu'en fait, c'était horrible parce que d'un côté, tu savais à quel point c'était un objet fabriqué par des enfants en Chine, potentiellement par des Ouïghours, un truc en plastique inutile. Et en même temps, tes filles en avaient vraiment envie. Et du coup, comme disait Audrey, les enfants ont besoin de limites, mais où tu places ces limites pour pas non plus leur imposer totalement toi, ta vision et ta conscience aussi de ce qui se passe dans le monde. Audrey, toi, comment t'arrives à faire ça avec tes enfants alors que justement t'écris des textes entiers sur ces questions-là, sur toutes ces horreurs, que t'as passé 9 mois à lire ces horreurs? Comment t'arrives à dissocier, à en faire abstraction quand tu parles à tes enfants?
Faire abstraction de quoi?
De toute l'horreur de ce qui nous entoure. C'est-à-dire si eux, par exemple, ils ont envie d'un pop-it ou d'être sur les réseaux sociaux ou de faire des TikTok, etc. Comment tu arbitres ?
Moi, j'ai pas de smartphone, donc, je sais pas comment je vais faire. Effectivement, ils aiment bien les smartphones et tout. Je pense que je leur dirais que ça tue des enfants et qu'il en est hors de question, je pense. J'en sais rien. Mais moi, je mise beaucoup sur l'épuisement des ressources en même temps. Je me dis que peut-être d'ici 3 ans, les smartphones n'existeront plus. Donc voilà, je mise beaucoup.
Toi, t'es super optimiste, Audrey, depuis le début, sur les fondements là. Ouais, je te trouve. C'est comme tu disais, maintenant, c'est mainstream l'écologie. Oh, mais c'est mainstream dans un tout petit cercle. C'est mainstream auprès de 3% de la population.
Oui, mais bon, il y a des. Enfin, je veux dire, la canicule, les 49 degrés, je ne sais pas quoi, au mois de juin. toute la région bordelaise l'a senti.
Oui, on l'a senti. Oui, puis hier, tu as Total, les PDG de Total, Engie, qui appellent à la sobriété quand même. Hein. Donc on n'est pas loin du discours mainstream quand même. Hein.
Ouais, puis maintenant, il y a des unes, il y a les journaux télé qui parlent de ça. Enfin, il y a une énorme évolution et assez rapide quand même. Et puis, l'épuisement des ressources, on y est. La dernière fois, mon mec, il est rentré, il m'a dit « Oh, il n'y a plus de moutarde !» Et j'étais là « Bien fait !» Vous aviez qu'à vous en préoccuper avant de tous ces trucs. Et du coup, pour tout ce qui est… jouets, tout ça, ils ont que des trucs du Bon Coin ou de brocante et tout. Et puis, de temps en temps, il y a des amis qui viennent et qui leur apportent un vrai jouet neuf. Et là, ils sont comme des dingues. Ils sont là, oh, un emballage, oh, c'est magnifique. Enfin, non, c'est vraiment... Ou quand quelqu'un leur offre un paquet de bonbons, ils le gardent pendant plusieurs jours, ils le regardent. Ils disent, oh, regarde, ça colle contre le papier, c'est fou. Pour ces 2 ans, il a eu un paquet de crocodiles. Je ne sais pas combien de temps ça lui a fait, mais assez longtemps. Je n'ai pas vraiment de j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre à ma famille que les cadeaux, ça ne me faisait pas du tout plaisir. Donc ça a été une bataille pour leur dire, en fait, juste vous offrez rien de neuf aux enfants, quoi. Et rien qui vient de Chine et rien en plastique. Et ça a été... Mais en fait, j'étais obligée de rendre les cadeaux, quoi, carrément.
Ah oui.
Il y a des moments où je dis, ça en fait, tu le donnes pas. Je rendais les cadeaux, je disais, ça en fait, tu le donnes à un autre enfant, mais pas au mien. Ce qui est assez violent, en fait. C'est terrible parce que ce système fait en sorte qu'un acte d'amour, en fait, il n'y a pas d'autre acte d'amour de la part des grands-parents, des oncles, des tantes et tout. Que d'acheter quelque chose. On a perdu toute tradition pour l'arrivée d'un enfant qui n'est pas acheter quelque chose fabriqué en Chine et tout ça. Et ça, je trouve ça hyper triste, en fait, de me dire on n'a aucune tradition. Et ce n'est pas la faute de c'est tout le système, en fait, qui est horrible, quoi. Je blâme pas les gens qui offrent des cadeaux ou qui achètent des... Et puis même, je vois par exemple, de temps en temps, je vais dans des villes avec mes enfants et on va au magasin Lego et puis j'achète des Lego neufs et tout. Et je me dis, en fait, dans une ville, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire que de faire les magasins, d'acheter quelque chose, qu'est-ce qu'on peut proposer? Je me souviens, une fois, j'étais à Lyon-Part-Dieu. Et Lyon-Part-Dieu, c'est un endroit où il n'y a que de la mort, en fait. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de place pour les oiseaux, il n'y a pas de place pour les gens. Je me souviens, c'était après le confinement, je crois que c'était une des premières dates que j'ai fait. Je partais jouer en Suisse et je venais de laisser ma fille pour la première fois. Et je me suis retrouvée à Lyon-Part-Dieu, je n'avais rien à faire. Donc, du coup, j'ai voulu aller boire un café et j'ai fait un peu le tour. Et il n'y avait aucun café, genre café normal, un café, quoi. Il n'y avait que des chaînes. Et je me suis retrouvée dans cette espèce de zone commerciale atroce. Et je suis sortie de la zone commerciale. Et là, je suis tombée sur une dame avec son bébé. Et du coup, je suis allée au Monoprix. Je suis allée lui acheter des couches, des trucs, du lait, du machin. Et je suis allée lui donner. Et puis au Monoprix, c'était pareil. Au Monoprix, il n'y avait pas de caisse automatique. Il n'y avait pas de caisse avec des gens, il n'y avait que des caisses automatiques et tout ça. Et je suis sortie et j'ai vu cette dame avec son bébé qui était vraiment collée à la voie et qui n'avait pas le droit de rentrer dans le centre commercial parce qu'il y avait un vigile. Et après, je me suis retrouvée, j'étais au salon grand voyageur de la SNCF, entourée de cadres. Et j'étais en larmes parce que c'était trop et tout.
Vision d'horreur.
Et du coup, c'était marrant parce qu'il n'y a pas un de ces cadres qui est venu me voir en disant « Ah, ça va, vous avez besoin de quelque chose ?» Rien, quoi. Enfin, c'était… Et puis, j'allais en Suisse. Et puis, en France, voilà, il y a Vigipirate, il y a le machin. Enfin, c'est hyper anxiogène. Puis, tout à coup, je suis arrivée en Suisse où il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée. Et tout le monde est gentil. Et je me suis dit, en fait, comment deux civilisations si proches peuvent être aussi… différentes au niveau du ressenti, quoi. Voilà.
Merci Audrey pour ce cri du cœur contre Lyon-Part-Dieu.
Non, mais au point que des fois je suis à Lyon-Part-Dieu, je me dis Bon, comment on fait pour démanteler ce truc, quoi? Je sais pas, bon, comment on fait? On casse les tours, mais après, il faut enlever toute l'électricité, il faut enlever la plomberie, il faut trier. Bon, bref.
Ouais, bah, toutes les villes, ça va être un sacré, ça va être, un sacré bordel quand elles seront abandonnées et quand on arrêtera de les considérer comme des lieux de vie, mais au contraire qu'on s'aperçoive que ce sont des lieux de mort.
Ah, je voulais dire quelque chose par rapport à l'école aussi. Moi, pendant le confinement, avec mes voisins, on a fait une petite école avec 5-6 enfants. Et en fait, on faisait une demi-journée de classe chacun. Donc, ça faisait qu'on avait une demi-journée de classe chacun par semaine pour 6-7 enfants. Et alors vraiment, c'est le meilleur souvenir de mon fils, quoi. Et à chaque fois, à chaque rentrée, il est là, « Non, mais je vais aller à la petite école !» voilà. Et en tout cas, ouais, vraiment, le côté participatif, et c'est les parents qui font la classe et tout, je le conseille. C'est très chouette.
Et du coup, tu veux pas... Enfin, dans ton projet d'IEF, ce serait avec ces autres familles, tu arrives à essayer d'avoir d'autres personnes qui sont proches de toi ou non, tu prendrais l'intégralité de la charge?
Non, mais depuis que j'ai écouté Caroline Goldman, je suis sortie de l'éducation bienveillante et maintenant je suis dans l'éducation éducation nationale. J'ai changé, mais bon, je me dis, enfin, je suis très contente d'avoir étudié le truc, d'avoir des pistes si jamais je me dis que je n'ai pas eu la réponse de l'éducation nationale. Je ne sais pas encore s'ils ont accepté ou pas, mais... Voilà, je me dis, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est un peu d'école et de les emmener au maximum en tournée, sur la route et tout ça, d'essayer de les déscolariser le plus possible, en fait.
Ouais, il y a pas mal de gens que je suis qui mènent un peu ce modèle-là, notamment un ami qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute ce podcast, qui crée un projet qui s'appelle Nomades des Terres, d'un projet de collectif de roulottes. Low-tech qui vont un peu raconter des histoires et montrer comment on peut vivre sobrement sans épuiser les ressources avec une question d'éthique équine aussi et des roulottes low-tech, et c'est vraiment super intéressant. Et lui a vécu en nomadisme aussi toute sa vie avec sa mère qui était artiste de rue, et on parle beaucoup de votre de parentalité depuis le début de ce podcast. Il y a une question qu'on n'a pas encore traitée qui peut-être est une non-question pour vous et qui est celle du féminisme par rapport à la maternité, puisqu'il y a beaucoup d'injonctions qui reposent sur les mères, d'être une mère parfaite, d'être une mère écolo. Voilà, il y a beaucoup aussi de craintes d'essentialisme autour de cette question. Est-ce que vous avez des doutes, des débats, des choses à dire sur cette question féminisme / maternité? Amandine?
Alors, c'est une question qu'on abordait même le triptyque écologie qu'on abordait assez souvent la classe virtuelle avec les parents et j'ai envie de dire surtout les mères qui étaient présentes, parce que c'était quand même beaucoup de mamans qui étaient là. On a eu des papas aussi quand même, mais beaucoup de mamans. Et assez souvent, il y avait cette double charge que je rappelle souvent, mais la charge mentale, la charge morale. La charge mentale, tout ce qu'on connaît sur le fait que ce soit quand même les femmes qui s'occupent de l'essentiel des tâches domestiques, et puis cette charge morale avec cette prise de conscience écologique. Et c'est quelque chose qui était pas évident, parce que effectivement aujourd'hui il y a l'injonction de la mère parfaite, il y a l'injonction de la mère écolo aussi, qui était là pour ces mères-là. Et c'était un équilibre qui était difficile à trouver. Et on travaillait, c'est vrai qu'on échangeait beaucoup, beaucoup autour de ça. Et il y avait encore une énorme un peu injustice vis-à-vis des femmes sur le fait de faire reposer la transition écologique familiale sur elle. Et en fait, ces injonctions écologiques qu'elle se mettait ça rajoutait en fait aux tâches du quotidien, etc. Et donc, c'était quelque chose qui était… oui, moi, j'ai ressenti beaucoup de souffrance de la part des participantes qui venaient à la classe virtuelle et où on travaillait sur, effectivement, hein, remettre les choses à sa place et ne pas avoir tout le poids sur ça, sur soi. Et alors voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, hein, mais il y avait une affirmation effectivement féministe à se dire, OK, il y a un moment, je ne suis pas là non plus pour porter l'intégralité de la charge morale de la famille sur mes épaules. Voilà, et autrement, par rapport à… Ouais, est-ce que… Enfin, moi, je me pose pas mal de questions, effectivement, sur autour de ça, des tâches ménagères, etc. Et avec mon conjoint aussi, sur… En fait, aujourd'hui, on a une notion de la liberté qui est la liberté où on est délivré de… C'est ça qu'on nous a vendu, en fait, hein. Être libre, c'est être délivré de toutes les tâches du quotidien, etc. Et où, en fait, petit à petit, on réalise que, quand on se pose vraiment la question, bah, pour être délivré de toutes ces tâches du quotidien, on doit soit les déléguer à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est l'esclavagisme moderne, au final, presque. Et où on doit les déléguer à des robots, je ne sais pas. Voilà. Et là, on refait la boucle avec les limites des ressources. Voilà. Et donc, je lisais un article récemment dans Social Terre d'un auteur qui s'appelle Aurélien Berland, et donc qui confronte cette notion de liberté
à l'autonomie.
Ouais, exactement, à l'autonomie, et de se réapproprier en fait, bah voilà, tout ce qu'on peut faire dans le quotidien. Et ça m'a quand même pas mal interrogée, et où je me suis dit. Il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, à revaloriser certaines choses. Il y a la notion du collectif aussi dont tu parles beaucoup, Hélène, hein, depuis tout à l'heure, mais à partager ces choses-là et à pas faire que ça repose sur une seule personne. Et en fait, je pense que c'est un peu la clé aussi de voilà qu'il y avait à proposer à toutes ces personnes qui étaient assez déroutées dans les classes virtuelles, mais de se dire, il y a des choses à se réapproprier et puis il y a des choses à remettre au niveau du collectif. Et donc, moi, voilà, c'est quelque chose à laquelle je réfléchis beaucoup, beaucoup en ce moment aussi. Ouais.
Merci, Amandine. Et du coup, on rappellera toutes les ressources qui sont données au fur et à mesure de cette conférence. Je les mettrai dans la description du podcast. Et donc, le formidable ouvrage « Terre et liberté » d'Aurélien Berland, qui est dans la bibliographie Edeni, et dont Floraison a fait un podcast et une interview d'ailleurs avec Aurélien. Et toi, Audrey, est-ce que tu as une réflexion par rapport au féminisme et ta parentalité et ta maternité?
Je sais pas du tout parce que je crois que la façon que j'ai n'est pas considérée comme féministe. Par exemple, j'ai allaité très longtemps, à chaque fois, plus de 2 ans et demi. Pardon ?
Pourquoi ce ne serait pas féministe ?
Parce que je sais pas, visiblement, c'est pas considéré comme féministe. Enfin, j'ai l'impression que je suis dans un truc trop. J'ai privilégié justement peut-être l'autonomie. Pour moi, c'était super important de ne pas dépendre de Nestlé, par exemple.
Mais oui.
C'était pas possible. Je pouvais pas acheter un lait en poudre, un lait en poudre, parce que voilà, c'était pas possible pour moi de leur donner de la nourriture industrielle dès la naissance, etc. Et j'ai vu à quel point c'était difficile. Donc, je comprends tout à fait les femmes qui ne le font pas parce que dès la maternité, en fait, on nous dit « donnez-lui un biberon ». Moi, j'ai commencé à me faire engueuler par des pédiatres quand mes enfants, ils avaient 9 mois parce que genre « ah, mais vous l'allaitez encore ». J'ai entendu des trucs genre « mais maintenant, c'est plus que de l'eau ». Enfin, il y a eu quand même une grosse pression pour que j'arrête d'allaiter à partir de 6 mois, quoi. Donc, je comprends qu'il y ait plein de femmes qui le fassent pas parce qu'au début, c'est difficile et que surtout, on nous dit qu'il faut les mettre en crèche à 3 mois. Enfin, toutes ces injonctions-là, elles sont, elles sont dures à contrer, en fait. Parce qu'on nous dit quand même que ce qui est normal, c'est de reprendre le boulot à 3 mois, de les laisser en crèche et de leur donner des biberons, en fait. Toutes les pubs, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai eu une maternité très fusionnelle, on peut dire. Mais d'un autre côté, je les emmenais partout. Je ne sais pas. En fait, la question du féminisme, ça dépend quel féminisme, je ne sais pas du tout.
Mais je pense que c'est là, et tu pointes une question qui nous est chère dans le collectif Edeni, qu'on aborde très souvent. En fait, c'est exactement la même chose que quelle écologie ? L'écologie du gouvernement, l'écologie voilà, de tous les secrétaires d'État d'Emmanuel Macron, etc., n'a rien à voir avec notre écologie et à ce qu'on appelle, nous, écologie, sans faire justement de la réappropriation sémantique. Et le féminisme, pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un féminisme très libéral, un féminisme capitaliste, et puis il y a même du féminisme de droite, du féminisme dominant, oppressif, et puis il y a un féminisme radical qui revient à la source du problème et qui peut être aussi éco-féministe, non pas seulement parce qu'il est écologique, mais aussi parce qu'il se pose la question de cette double oppression et de cette double domination entre la nature et les femmes. Et quand on part de cette analyse-là, on se rend compte qu'en fait, il y a toute une imbrication, une complémentarité de cohérence entre le fait de libérer et de rendre autonome. C'est là où il ne faut pas non plus galvauder. C'est pour ça qu'il y a quand même une maîtrise sémantique qu'on a perdue au fur et à mesure des années avec la novlangue, avec la simplification à outrance, avec la propagande, etc. Et du coup, on a un vocabulaire qui s'appauvrit et donc une réflexion qui s'appauvrit et qui met tout le monde dans des cases, alors qu'en réalité, il y a une diversité éthique d'approche. Par exemple, l'anarchisme naturien n'a rien à voir avec l'anarchisme proudhonien, qui est extrêmement misogyne, qui renvoyait les femmes à leur ménage et qui en faisait des ventres sur pattes, dénués de toute réflexion politique. Et du coup, dans ce féminisme radical, il y a cette notion, il peut y avoir cette notion, en tout cas lorsqu'elle est liée à l'écoféminisme, eh bien, de cette autonomie. Et donc, le but n'est pas de marginaliser des femmes qui, justement, n'auraient pas les moyens en termes de temps, d'organisation, de complications, et donc choisiraient leur combat et, par exemple, n'allaiteraient pas sur cette question, mais on pourrait l'étendre à l'infini sur l'hygiène infantile, sur le portage, sur les couches lavables, etc. etc. Donc, le but n'est pas de marginaliser des femmes et de s'opposer, mais au contraire de toutes se soutenir et de chercher à s'empouvoirer ensemble sur cette autonomie de dire, en fait, on n'a pas besoin des multinationales pour élever nos enfants, on n'a pas besoin des multinationales ou de l'éducation nationale ou des grandes entreprises voilà, pour créer la vie et faire des petits êtres épanouis et à leur place et en harmonie. Après, c'est vrai que c'est pas simple au quotidien et surtout c'est encore moins simple lorsque quelque part ça se transforme en stigmate, comme tu disais, c'est-à-dire que tu as subi de la part de pédiatres, de la part de proches, etc., un peu un pointage du doigt et des bâtons dans les roues qui sont mis lorsqu'on cherche cette autonomie. Et c'est un peu ce que toutes les sorcières ont vécu, c'est ce qu'on retrouve dans le livre de Mona Chollet, où dès qu'une femme essaie de s'autonomiser, d'être indépendante, d'être plus forte, etc., soit on l'isole encore plus, soit on la culpabilise. Et cet isolement, il peut d'ailleurs intervenir au sein des couples, qu'ils soient hétérosexuels, homosexuels ou toute autre configuration familiale. C'est vrai que c'est important de pouvoir lever le tabou sur qui s'occupe de cette charge-là, parce qu'il y a cette proximité maternelle réelle, mais pas essentialisante pour autant. Dans le cercle animal, par exemple, chez les mammifères, etc., voilà, il peut y avoir d'autres, d'autres individus, on va dire, qui s'occupent aussi de l'éducation des enfants. Mais c'est vrai que c'est des réflexions pour moi qui ne sont pas opposées du tout au féminisme. Et en tout cas, je n'ai pas vécu du tout ma grossesse comme le fait de renier mes valeurs féministes. Au contraire, d'ailleurs, elles sont venues de mes valeurs féministes et écologiques autour du rejet des traitements qu'on me proposait pour l'endométriose, d'avoir des hormones, de polluer les cours d'eau et d'au final tuer encore plus de personnes et d'individus. Et du coup, on peut le vivre aussi très simplement sans tomber dans une consommation de masse, en refusant les cadeaux, en refusant les injonctions à avoir tous ces gadgets, tous ces produits, etc. Mais au bout d'un moment, j'imagine, je ne suis pas encore armée pour pouvoir, pas encore outillée pour répondre à cette question, il y a la question après, une fois que les enfants sont là, et de toutes leurs demandes de consommation, parce que c'est l'exemple qu'ils ont dans leur entourage, et pareil sur les stéréotypes de genre. Audrey, oui.
J'ai un très bon truc pour la consommation. Moi, ce que je faisais très souvent, ça marche hyper bien. C'est en fait dans les magasins, par exemple, quand ils voulaient quelque chose et tout, je disais « Ah ben non, c'est à la dame, en fait. » Ça marche très bien, ça. Dans les supermarchés, genre quand ils prenaient un jouet, à la fin, à la caisse, je le rendais à la caissière. Je disais « Ah ben non, c'est à la dame, tu ne peux pas le prendre, en fait. »
Voilà. C'est pas beau de mentir, Audrey.
Ça marche hyper bien, ça marche trop bien. Franchement, ça marche trop bien. Mais je repensais, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps, une vidéo, je ne sais plus, je crois que c'était Le Parisien, et c'était sur la pénurie de lait infantile en Amérique.
Ouais.
Toute la vidéo était sur les femmes, comment elles font là. Alors, elles prennent des torchons, elles mélangent du sirop de glucose avec du lait de vache, elles font une espèce de potion dégueulasse. Et ce qui était assez amusant, c'était que le mot allaitement n'était pas prononcé pendant toute la vidéo. C'est-à-dire que personne se disait, en fait, il y a un truc qui marche hyper bien pour faire du lait infantile, c'est les seins. Et sachant qu'en plus, il suffit de pomper pendant 2-3 jours, et même une femme qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas allaité, peut avoir du lait hyper rapidement. Et je me disais, mais c'est assez marrant, en fait, au point qu'on a complètement oublié que les seins, ça pouvait faire du lait, quoi. Et vraiment, le fait que ça n'était pas prononcé dans ce mot, dans toute la vidéo, je me suis dit, ah, mais c'est fou à quel point l'humanité peut oublier vite des choses tout à fait normales. Et c'est pareil, par exemple, il y a la question de la GPA aussi qui est quand même... voilà, la GPA, c'est quelque chose qui est brandi par des féministes pour dire... que c'est un droit, le droit à l'enfant, machin et tout. Et c'est vrai que la GPA, par exemple, pour moi, c'est quelque chose... qui me paraît fou, quoi. Et quand j'ai regardé des couples français qui ont eu des enfants en Ukraine, qui voulaient aller les chercher et qui n'avaient jamais d'évocation de la mère, en fait. Enfin, ils disaient mon enfant, machin et tout. Ça, c'est vrai que c'est des questions, comment faire? Parce que pour moi, la GPA, je n'arrive pas à croire que ce soit féministe. Mais pourtant, c'est traité dans les médias comme une révolution féministe, quoi.
Oui, et puis il y a cette histoire encore la semaine dernière là, d'un couple qui a eu recours à une GPA. Alors déjà, qui avait fait une photo où la mère porteuse était en arrière-plan et ça faisait vraiment « Blessed be the fruit » de la série dystopique « The Handmaid's Tale », pour ceux qui ne l'ont pas vu. Enfin, c'était vraiment atroce, rien que la photo. Et puis après, en fait, ce couple a rejeté, c'était dans Le Monde, en fait, a mis à l'adoption leur enfant parce qu'il avait une maladie génétique et que du coup, ils n'en voulaient plus. Comme un bien de consommation, où toutes ces femmes en Ukraine, effectivement, pour lesquelles il n'y a eu aucune considération et aucune aide, le but, c'était juste de récupérer les enfants. Et en même temps, en ce moment, il y a un débat avec une amie qui réfléchit à donner ses ovocytes, qu'il ne l'aurait jamais fait pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle se dit, bah, si un jour je suis stérile ou c'est trop tard, je passerai par l'adoption si j'ai vraiment un désir très très fort de parentalité en tribu, etc., de cette envie de transmettre, d'être dans une éducation positive. Et de l'autre côté, elle ne peut pas s'empêcher, sans savoir si c'est sincèrement d'elle que devient cette idée ou si c'est juste effectivement le progressisme techniciste et transhumaniste qu'on nous rabâche à longueur de journée qui l'influe sur, bah, en fait, si c'est vachement juste et c'est vachement beau de donner des ovocytes pour des mères porteuses, pour des GPA ou pour des PMA, etc. Et en fait, c'est extrêmement compliqué parce que d'un côté, oui, il y a ces questions écologiques qui sont totalement passées. Alors là, ce n'est pas du tout mainstream. On ne réfléchit jamais aux conséquences écologiques qui tuent encore plus d'individus que ça n'en sauve dans l'hyper-médicamentalisation et l'hospitalisation, etc. Et de l'autre côté, on ne peut pas s'empêcher aussi de vouloir le bonheur des gens et de se dire, bah, s'il y a quelqu'un qui, par exemple, a eu un cancer quand elle était ado et a perdu tous ses ovocytes et qui a un désir de maternité plus tard, est-ce que ce n'est pas beau d'avoir cet échange vu que la médecine le permet? Mais est-ce que le problème, ce n'est pas justement que la médecine le permet avec toutes ces injections, ces hormones? Enfin, c'est des processus médicaux très, très lourds qui ne servent pas à sauver des vies. Ce n'est pas comme, c'est pas du tout la même réflexion éthique que... Il y a quelqu'un qui déjà est sur cette terre avec déjà des cercles d'amour, d'amitié, de militantisme, etc. Et donc, qu'on va sauver, guérir une jambe coupée, etc. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est comme la réflexion sur l'avortement. En fait, ça s'appelle... je vous invite à aller voir cette vidéo de Monsieur Phi pour celles et ceux que ça intéresse. C'est l'argument du violoniste. Ouais. Et qui est très beau pour réfléchir à cette argumentation. En fait, c'est pas de vouloir être contre un fœtus ou contre la volonté d'une famille, mais c'est plutôt s'interroger sur quels sont les impacts concrets, quels sont les arguments, quelles sont la société dans laquelle on a envie de vivre, et justement de ne plus avoir cette approche libérale où chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde veut être milliardaire, par exemple, mais plutôt de se dire, est-ce que c'est compatible avec un équilibre avec d'autres personnes, quoi. Ouais.
Ouais, surtout que la PMA, la GPA aussi, pendant ce temps-là, on cache les causes de la stérilité, on cache les causes des maladies, on cache les causes du cancer. Enfin, on compense tout ça par des parcours médicalisés après. Donc, en fait, c'est... Par exemple, l'endométriose, il y a des gens qui ont étudié et qui ont dit que c'était environnemental, etc. Et c'est très... Enfin, il n'y a aucune prise en charge des causes, quoi, en fait. Ils n'arrêtent pas la pollution. Donc,
Il y a quelqu'un qui nous dit, Clémence, attention à contextualiser cette réflexion quand vous êtes déjà parent ou en voie de l'être. Et c'est vrai, parce qu'il y a des personnes qui sont en réelle souffrance de ne pas pouvoir avoir cette parentalité, on va dire, et elle nous rappelle que l'adoption est très compliquée et longue, et les parcours PMA aussi, d'ailleurs. C'est vrai que souvent, en tout cas, moi, pour en parler, parce que j'ai fait beaucoup de bénévolat dans des associations féministes, et souvent la première dans un projet de parentalité avec stérilité ou impossibilité d'avoir des enfants pour un couple homosexuel ou autre, souvent la PMA est présentée ou la GPA est présentée avant le potentiel d'adoption. C'est pour ça qu'on se permettait d'en parler. Néanmoins, c'est vrai que c'est très difficile d'en juger quand on ne vit pas cette chose, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des réflexions et qu'on ne peut pas aborder sans tabou ces sujets de société, parce que ça concerne tout le monde. En fait, on pourrait croire que ça ne concerne que les familles en question, mais à partir du moment où il y a de l'argent public, où il y a les impôts, où il y a les hôpitaux, où il y a des secteurs entiers de la société que ça brasse, des idéologies, enfin, ça crée aussi un modèle de société, et donc ça concerne tout le monde, en fait, les femmes, mais aussi les hommes. C'est un peu comme les projets transhumanistes, de se dire, est-ce que c'est éthique de pouvoir payer pour être augmenté, pour avoir une puce dans le cerveau, pour pouvoir changer son corps, etc. C'est des associations, enfin, c'est aussi des orientations de ressources qui sont très importantes, parce que du coup, ces médecins qui vont se dédier à ces spécialités, et ben, ne vont pas se dédier à sauver des enfants existants, par exemple, ou à faire d'autres choses. Donc, tout ça, il ne faut pas être totalement naïf sur le fait que, ah, mais on peut tout faire, comme le disait Audrey en introduction. Alors, de manière un peu optimiste, moi, je trouve que d'ici 3 ans, il y aura déjà une pénurie de toutes les ressources et que du coup, il y aura déjà eu un effondrement du système industriel capitaliste. Je ne suis pas tout à fait sûre. Je pense qu'il a plus de ressources de résilience que ça. Mais néanmoins, c'est sûr que cette question des ressources, elle va se poser. Et, par exemple, il suffit d'observer des pays qui sont un peu en avance sur ces questions-là, que ce soit l'Argentine, où j'ai vécu et qui a déjà vécu plusieurs effondrements économiques et logistiques. Il y a eu le Liban récemment, où il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'hormones. Alors là, se pose même plus la question, en fait, comment on fait pour retrouver notre autonomie de vie épanouie quand on n'a plus toutes ces perfusions d'hyper-industrialisation. C'est vraiment des questions qui sont très, très fortes et qui peuvent amener à de l'éco-anxiété sur la parentalité. Et je pense qu'on va conclure sur cette question-là, c'est que pour rassembler un peu toutes ces questions autour du féminisme, de l'écologie, de la parentalité, eh bien, finalement, il y a diverses expériences de vie qui toutes peuvent se résumer autour de cette éco-anxiété parentale, cette éco-anxiété pour nous qu'on n'a pas envie de transmettre parce que les enfants sont innocents encore et c'est important de garder cette innocence, mais qui est de notre responsabilité aussi de pouvoir agir, que la parentalité soit un moteur d'action ou qu'au contraire elle intervienne après et malgré cette peur et ces adaptations qu'on fait dans nos vies. C'est important de pouvoir aborder ces sujets avec cohérence, avec transparence. Donc, merci à Audrey et à Amandine de les avoir parcourus avec nous ce soir. Merci à vous aussi. Je crois qu'on n'a pas oublié de questions dans les commentaires en live. Et de toute façon, je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste. On savait que ce serait mission impossible de le traiter en 1 heure de podcast, mais je pense qu'il y aurait de quoi en faire facilement 2-3 épisodes supplémentaires, tellement il est peu traité aussi avec cet angle écologique très fort dans les médias. Je vais vous demander du coup, Audrey et Amandine, un mot de la fin, quelque chose que vous aimeriez partager et éventuellement des ressources aussi que vous aimeriez partager avec nos auditrices. Audrey.
En ressources, qu'est-ce que j'aime beaucoup ? Oh, il y a tellement de choses. J'ai bien aimé Emma Aziza là, qui a fait un thinkerview sur la question de l'eau, et qui est aussi mère et qui était assez joyeuse et assez dans le combat.
Elle a 4 enfants, je crois, effectivement, elle le dit à un moment dans l'interview. Ouais.
Ouais, j'ai trouvé assez joyeux ce podcast. Ça, j'ai trouvé ça super. Et sinon, j'en ai lu tellement que je ne saurais pas trop quoi conseiller. Tout ce qui traite des questions d'autonomie et de recréer des villages. Et j'aime beaucoup le portrait du colonisateur aussi de Jérémy Piola, qui m'a fait beaucoup de bien sur la question de la transmission, sur pourquoi est-ce qu'on a perdu nos cultures populaires, pourquoi est-ce qu'on a perdu nos danses, nos chants. Et ça, c'est quelque chose qui me rendait assez triste de ne pas pouvoir transmettre à mes enfants des chants et des danses. Alors du coup, j'ai réinstauré là où j'habite, qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent à la maison, à la fin, on se met à chanter. Alors bon, c'est que des chansons marchandes, enfin issues de la culture populaire marchande. Mais en tout cas, j'ai essayé de réinstaurer ce truc chez nous aussi, on chante le soir tous ensemble, quoi. Ça n'a aucun rapport avec les ressources, mais...
C'est ton mot de la fin. Écoute, Audrey, il est super beau, ce mot de la fin. Ces rituels familiaux, un peu comme on a des rituels de grossesse qui sont non marchands aussi, etc. C'est super. Merci, Audrey.
Merci à vous. Merci pour ce moment d'échange.
Amandine.
Alors, moi... Je vais partager une ressource alors qui est dans ma to-do list de l'été, des choses à lire, mais qui m'interpelle pas mal. Fatima Wassak sur le pouvoir des mères, qui a fondé l'association Le Front de Mer. Alors, j'ai pas encore lu le livre, mais je l'ai beaucoup vu en interview, etc. Et j'aime bien l'image qu'elle emploie de la maman dragon. Alors moi, mon conjoint m'appelle souvent la maman louve, mais c'est juste de se dire, il faut pas sous-estimer le pouvoir des mères. Et toute l'énergie et la force de frappe dont elles sont capables si on touche à un cheveu de leur progéniture. Et moi, ça me parle beaucoup. Et c'est ça aujourd'hui, moi, qui m'anime aussi dans les combats que je mène au quotidien. Hein. Je vous disais au début, ma prise de conscience coïncide un peu avec ma maternité. Et aujourd'hui, mes filles sont un gros moteur dans tout ce que je fais au quotidien. Et j'aime bien le fait qu'elles disent que ben voilà, la maternité soit vraiment un terreau fertile pour le militantisme en fait, et tout ce qui va toucher à trait aux différents combats qu'on peut mener, que ce soit féministe, écologiste, etc. Et voilà, donc moi, ça fait partie de ma wish list de cet été de lire l'intégralité de son livre. Voilà.
Super, merci beaucoup Amandine. Et puis merci à nos participantes du soir, parce que je ne crois pas avoir vu de participants, mais vous étiez nombreuses en tout cas. Il y a déjà beaucoup de remerciements et d'expressions de gratitude, de sororité dans la conversation. C'est vraiment très agréable. Et puis encore une fois, on rappelle que le but de ces podcasts et du collectif Edeni, c'est de pouvoir échanger sans tabou, mais avec des valeurs d'humilité, de respect. On n'a pas réponse à tout. Le but, c'est d'ouvrir des portes et ensuite de faire venir l'esprit critique et l'intelligence collective pour pouvoir répondre à ces questions qui trop souvent sont non abordées, restent des non-sujets, des impensés. On reste sur des notions très mainstream, encore une fois, de progressisme industriel, d'écologie, de panneaux solaires, etc., sans forcément aller creuser sur ces notions de radicalité, d'honnêteté, de partage, de possibilité et de changement de paradigme. Donc, merci de nous faire confiance pour ouvrir ces portes avec nous chaque mois et pendant nos formations. Je vous rappelle aussi, on a beaucoup parlé d'éco-anxiété, qu'on a créé une retraite en éco-sérénité qui se base sur le travail qui relie de l'éco-psychologue Johanna Macy et qui est vraiment un formidable outil collectif aussi de réappropriation de notre pouvoir collectif dont parlait Amandine avec ce livre de Fatima Wassak aussi. Je vous souhaite un très bon été et plein de belles choses respectivement dans vos luttes, dans vos combats, dans vos doutes, dans vos passions et dans vos lectures.
Merci. Et allez voir Audrey aussi, si vous avez l'opportunité.
Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas parlé d'Audrey.
C'est quoi les prochaines dates
aussi, ouais, c'est quoi les... Tu as des actus à nous partager?
C'est très gentil, merci. Et je joue au Festival d'Avignon du 4 au... du 6 au 17. Et après, je reprends...
Rappelle-le moi, parce que c'est un podcast, donc
juillet. Puis normalement, je serai en tournée toute l'année et j'ai fait une petite tournée des ZAD aussi pendant deux saisons là, avec les soulèvements de la Terre. Donc voilà, j'espère rejoindre quelques actions des soulèvements de la Terre et jouer le spectacle gratuitement. Et puis voilà.
Super. Et tu repasseras aussi, tu as une tournée dans les grandes villes en France?
Oui, je crois. Je n'ai pas les villes en tête, mais je crois qu'il y a une vingtaine de villes l'année prochaine et puis ouais.
Bon, on peut te suivre sur un site internet?
Tout à fait.
Voilà, et ben allez voir du coup Audrey Vernon, vous verrez tous ces spectacles à venir et vous pourrez retrouver avec délectation ces sujets tournés de manière caustique, acerbe et toujours très drôle. Merci Audrey, merci Amandine et
merci Hélène.
À toutes et à tous. À bientôt. Ciao.
Bonne soirée.